18h-21h, prenons l'air avec Pascal Labois.
Oui, parce que prenons l'air, c'est aussi le dimanche. Et justement, on en profite, on fait la promo. C'est aussi entre 18h et 21h le dimanche avec Axel de Paris, qui est voyant de star, voilà, qui est avec nous et qui donne de son temps. Et on parle aussi le dimanche entre 20h et 21h de paranormal, de choses. On en apprend. Hein. Ça, c'est le dimanche. Je vous donne d'ores et déjà le rendez-vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous écouter. D'ailleurs, je vous en remercie le dimanche soir entre 18h et 21h. On revient dans Prenons l'air de ce samedi matin 20 janvier. Le docteur Château-Henri Carole, gériatre, nous a rejoint dans les studios. Docteur, bonjour.
Bienvenue. Bonjour Pascal, merci à Martinique Première. Bonjour à
bien.
Tous.
Oui, ça va. Oh, je vois, il y a une, la forme. Là.
Oui, malgré le temps pluvieux.
On va vous retrouver, pour expliquer à nos auditeurs, on va vous retrouver régulièrement, une fois par mois, le samedi. On passera une heure ensemble et on parlera de choses et de sujets, notamment de médecine. Hein. En l'occurrence, on sera aussi accompagné d'autres invités sur certaines émissions, parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Vous êtes gériatre et aujourd'hui, exact. En tout cas, on va parler de la mémoire. Parce que la mémoire, c'est une chose capitale que l'on a à la naissance et qu'il faut absolument se préserver. Et il y a des techniques pour ça, vous allez nous expliquer, docteur.
D'accord, oui, on va approcher tout ça.
Et vous avez, justement, parce que vous êtes aussi... Vous êtes une infatigable chercheuse, on m'a dit. C'est vrai ?
C'est vrai.
Je sais pas. Je notais infatigable chercheuse. Et vous êtes à l'origine de différents articles référencés sur la mémoire. Donc vous avez beaucoup, effectivement, de par votre métier, on va dire, en tant que gériatre, vous avez beaucoup. Vous, c'était la mémoire.
Oui. Après, je dirais que c'est le flux de la vie qui nous emmène à droite et à gauche. Mais c'est vrai que la mémoire est une entité passionnante. Comme tu l'as dit, de naissance, les mémoires sensorielles, nous avons 5 sens. Bon, elles nous appartiennent à notre naissance. Et après, c'est un travail permanent pour l'agrandir, la préserver. Et ça, quelle que soit l'avancée en âge.
La mémoire, c'est le cerveau, en fait.
C'est ça.
C'est le moteur du corps.
C'est ça. Alors... bien souvent, le moteur du corps, on disait en fait que c'était le cœur. Un arrêt cardiaque fait qu'on n'avance plus. Mais en fait, et il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites sur le cœur en priorité. Et le cerveau, lui, dans sa boîte crânienne, n'est pas si bien connu que ça. Les émotions non plus. Et en fait, c'était une entité, alors je ne vais pas revenir à longtemps, mais c'était une entité un petit peu liée à l'âme, avec une notion religieuse qui faisait que tout ce qui était mémoire amnésique, capitale amnésique, c'est-à-dire vraiment nos pensées, nos souvenirs et nos émotions, était non pas dans cette idée de recherche, parce qu'elle était préservée et dans un monde un petit peu occulte, entre guillemets.
Et on parlait du cœur à l'instant, mais le cerveau, justement, quand il ne va pas bien ou quand il y a un problème, s'il est directement avec le cœur, si le cerveau s'arrête, le cœur s'arrête. Non, pas forcément.
Regardez les gens qui sont en réanimation, on les prolonge, donc il y a beaucoup de choses, je pense.
Effectivement, c'est vrai, il faut penser, je ne pensais pas, oui. Mais
Donc alors qu'on est dans un coma, vigile ou pas, les battements cardiaques sont bien présents.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la mémoire ? Comment se la préserver ? Surtout, bon, en général, la mémoire, on l'a en permanence jusqu'à, on va dire peut-être une cinquantaine d'années, puis après ça faiblit un petit peu. Où c'est là, il faut la travailler ? Est-ce qu'il y a un âge particulier, docteur ?
Alors, tu as raison, à partir de 50 ans, de toute façon, c'est le pic d'incidence où il y a les maladies chroniques.
D'accord.
Donc, il se passe des choses, que ce soit le diabète, l'hypertension, plein de choses. Mmh. Les facteurs de risque, le sommeil, tout change, la physionomie même change et nos capacités physiques, mais déjà changent à partir de 20 ans. C'est-à-dire les sportifs, ils ont une apogée physique de 20 à 25 ans et après les athlètes, ils savent bien qu'il faut faire très attention à ne pas se blesser et à préserver leur capital physique. Pour la mémoire, c'est la même chose, ça se voit moins et tu as raison, à partir de 50 ans, il y a ce qu'on appelle une diminution qu'on voit.
J'ai travaillé, docteur, sur le sujet.
Stop, ça se voit. Et donc, le cerveau, en fait, le volume diminue un peu, dont les hippocampes. Et les hippocampes, c'est deux petites glandes qui est le centre de la mémoire. Donc là, ça diminue de volume avec l'âge, comme l'os, comme la vue, comme l'audition, enfin, tout se transforme.
Alors, en fait, parce qu'on parlait de sportifs, c'est comme un muscle. Lorsqu'on arrête le sport, ben, s'il n'y a plus de muscle, il faut justement continuer à se muscler. Quoi.
Exactement, parce qu'en fait, on ne le voit pas. C'est-à-dire, on va garder la même physionomie, la même corpulence, mais le muscle va diminuer et la graisse va apparaître. Très simplement avec l'avancée en âge. Donc là, on va quand même faire un peu de muscle parce que le miroir nous dit qu'il faut bouger, qu'il faut un peu se galber. Mais le cerveau, il dit rien, mais il envoie quand même des signaux avec nos oublis. Et ça peut parfois être inquiétant.
Et là, on en arrive, alors si on va plus loin, après on en arrive à la maladie d'Alzheimer.
Oui, ce sont des pathologies.
Mais il y a plusieurs étapes avant. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain où on perd complètement la mémoire.
Non. Alors justement, c'est ce qui fait la différence. Une maladie d'Alzheimer, qui est un processus neurodégénératif, s'installe sur plusieurs mois. C'est vraiment jamais, à la différence d'un AVC, c'est vraiment un à-coup brutal où il peut avoir vraiment des troubles de la mémoire secondaire et très rapide, mais une maladie d'Alzheimer, jamais.
Alors, j'ai une question par rapport à ça, parce que la maladie d'Alzheimer, on peut la voir très jeune.
Oui.
Et on disait que justement, à partir de 50 ans, justement, on pouvait perdre la... Mais il y a des jeunes qui sont atteints d'Alzheimer bien avant 50 ans.
Alors, il y a des formes familiales. Le premier cas a été montré chez une jeune femme de 23 ans. Donc, la maman avait un peu plus de 40 ans. Donc là, ce sont des formes familiales exceptionnelles, heureusement. Il est vrai quand même qu'on se pose la question de cet âge, parce que le pic d'incidence, moi je l'avais appris, il était à 75 ans. Donc le pic d'incidence là où il y a le plus grand nombre de patients atteints. Ça fait longtemps que je me suis dirigée pour ouvrir l'unité neurocognitive pour les plus jeunes, parce qu'on le voyait bien sur le territoire. Et donc cette mémoire est défaillante avant même 60 ans, et avec des diagnostics posés avant cet âge-là.
Est-ce que c'est héréditaire, docteur ?
Alors, maintenant, je vais répondre comme tout le monde le dit, c'est-à-dire toutes les maladies et toutes les pathologies ont une notion d'hérédité.
D'accord. Toutes les maladies.
Oui, d'ailleurs, ça va changer notre médecine. Alors, je ne serai plus en exercice quand ce sera fait, mais
pas si âgé que ça, docteur.
si, ça avance. mais en fait, dans la médecine futuriste, même les bébés auront une sorte de screening et on saura dans les années futures si telle ou telle autre pathologie pourra se déclarer. Ce qui sera extraordinaire, mais dans ces cas-là, on mettra des programmes de prévention. Donc là, je suis dans la médecine future.
J'écoute avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire quand on va préparer, on saura tout dès la naissance sur le votre bébé, quoi, fille ou garçon. Dès la naissance, on saura si la maman a eu ça, si le papa a eu ça, s'il a telle ou telle maladie.
Voilà, avec le capital ADN, tout ça. Là, je vous parle, je sais pas si c'est dans 50 ans ou plus, c'est pas demain.
Ouais, enfin, c'est en cours déjà, quelque part. Oui, donc ça, on va finir comme ça, quoi. On va finir par l'avoir, la fameuse puce, hein, intégrée sous la peau. On va finir, hein, docteur ? C'est vrai. Il n'y aura plus la carte, comment on appelle ça ? La carte
vitale.
La carte vitale, elle sera sous la peau, bientôt. Ah ouais. Donc on y vient quand même, quoi.
Je pense. La médecine est galopante. Franchement, les progrès aussi, les cellules maintenant cancéreuses sont vraiment traquées, cherchées, il se passe des choses extraordinaires. Et c'est sûr que l'idée de prévention, parce que l'espérance de vie est de 120 ans. Ça a été démontré par les experts aussi sur les souris en laboratoire et tout. Bon. Et on n'y arrive pas, déjà 85 ans. Bon. Et quand on est au-delà de cet âge, être en bonne santé, parce que l'idée 120 ans, c'est être en bonne santé. Donc c'est sûr que la prévention est là, très jeune, donc sera à cibler.
On va faire notre première pause de cette heure, docteur, si vous voulez bien. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h, le docteur Château. Henri Carole, qui est gériatre, on parle de la mémoire aujourd'hui. Docteur Château, Henri Carole sera avec nous régulièrement tous les mois dans Prenons l'air, le samedi, et on va aborder différents sujets. Aujourd'hui, c'est la mémoire, et le standard vous est ouvert également, si vous avez des questions à poser là-dessus, sur la mémoire, si vous-même, peut-être, vous vous apercevez que de temps en temps, tiens, j'ai telle ou telle pathologie, j'ai l'impression que je perds la mémoire, j'ai l'impression que je perds. Alors, est-ce que ça veut dire que vous la perdez réellement ? Ben, vous pouvez nous appeler. Le docteur Château, Henri Carole répondra également à vos questions en direct. Ne bougez pas, on revient dans un instant. On va faire la petite pause promo et on revient. Merci.
Prenons l'air sur la première. Prenons l'air avec Pascal Laboie.
association à l'honneur. Ouh là là, prenons l'air avec Pascal Lavoie. Ouh là là, respirez à plein poumon la musique et l'info et au rendez-vous de Prenons l'air.
Ah, je vous ai vu, docteur. Je vous ai vu balancer des épaules.
C'est trop gentil, la musique, là.
On prend l'air, on est ensemble jusqu'à 11h avec le docteur Château-Henri Carole, qui, elle, est avec moi jusqu'à 10h. Et nous parlons de la mémoire. Alors, docteur, on en était justement, je disais juste avant qu'on avait ouvert le standard, bien sûr, si vous avez des questions à poser. Mais quelquefois, on a tendance, on dit, tiens, oh là là, on cherche un nom, on cherche un numéro de téléphone que l'on connaît par cœur, hein, qu'on a en tête. Ah, oh, mais bon sang, mais je perds la mémoire, moi. Putain, sous le coup, ça revient. Ça, est-ce que c'est déjà un signe de perte de mémoire? Et là, si vous me répondez oui, je vais m'inquiéter.
Bon, je vais comme m'inquiéter. Je suis là pour sécuriser, oui. Normalement, les docteurs, ils sécurisent avant tout.
Donc, non, mais ça m'arrive pas souvent. Hein, mais c'est plus peut-être. Alors, justement, ça arrive pendant des périodes où on est beaucoup de travail, etc. Ouais. Où on est concentré, voilà, concentré sur un sujet. Et puis d'un seul coup, on attend un appel. Donc on sait que cet appel, par exemple téléphonique, on sait que c'est telle et telle personne. Et puis on décroche et on. Oui, oui, vous êtes. Ah ben oui, justement. Ça, c'est de la perte de mémoire.
Non. Ah, on est dans les actes de la vie quotidienne.
Ah, d'accord. Bon.
Alors, il y a une notion qui est importante, c'est de faire les choses avec conscience. Pleine conscience, d'ailleurs, ça le vend en poupe, comme on dit. Si on éteint le gaz avant de partir de la maison, ben, on fait attention à éteindre le gaz, quitte à se le dire, bon, j'éteins le gaz. Mm-hmm. Pour vraiment...
Fait de le dire, c'est pour ça que vous...
Exactement, ce sont des petits moyens mémotechniques, des petits moyens d'encodage, d'ancrage dans le présent. Parce qu'en fait, quand on tourne le bouton pour le four, on est déjà dans la voiture. Et on a du mal à rester sur place. Et nos pensées font qu'on est toujours dans la planification de notre journée. Et comme tu dis, on est déjà en train de voir le téléphone et on est déjà avec la personne, même si on n'a pas encore décroché. Et c'est ça. Donc, on a du mal à vivre cet instant présent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'entre autres, un des arguments ou une façon d'améliorer la mémoire, c'est la méditation.
La méditation.
Oui, ça a été démontré par Mathieu Ricard et son père, qui est journaliste. Mmh. Ils ont fait des bouquins ensemble, philosophe également. Lui est moine bouddhiste et il s'est prêté au jeu des experts médicaux. Il a fait donc tout son cursus de moine. Et donc, les imageries montrent bien que les méditants, ceux qui ont cette habitude, ont les hippocampes totalement bien gonflés. Enfin, ils ont même un pourcentage, tout est mesuré, supérieur à la normale.
Parce qu'ils méditent.
Oui, totalement. Donc la méditation est un des facteurs pour préserver la mémoire. Oui.
Eh ben, 63 23 23, 0596 63 23 23, vous pouvez nous appeler. Hein. J'ai vu que ça crépitait, mais quand on parlait, les gens raccrochent. Allez-y, vous pouvez nous appeler, vous pourrez poser vos questions à notre invité ce matin, le docteur Château-Henri Carole, qui est gériatre. On parle de la mémoire, justement. Et allez-y, docteur, je vous écoute avec beaucoup d'attention.
Tout à l'heure, si tu veux, tu as cité aussi quelque chose. J'ai le téléphone, je suis en train de faire quelque chose. Il y a aussi l'attention sélective, c'est-à-dire tu as parlé de concentration. Tout ça, ce sont des étapes. On est dans une attention, ensuite on est dans une concentration et ensuite on est dans une mémorisation. D'accord. La mémoire, elle n'est pas à alimenter comme ça, on n'appuie pas sur un bouton. Alors ça dépend quelle mémoire, il y a beaucoup de mémoires. D'accord. Par exemple, faire du vélo, c'est une mémoire procédurale, c'est pas la même chose que retenir ton prénom. Et donc on sollicite, et c'est jamais le blackout, c'est-à-dire on n'est jamais en arrêt de mémoire total pour toutes les mémoires qu'il y a. En plus, les mémoires se localisent dans le cerveau de façon différente. Donc ça, c'est très important à savoir. S'il y a une mémoire qui peut être atteinte, les autres sont à stimuler.
D'accord. Et alors, quand on... Je pose la question. Hein. Quand on rêve, par exemple, le rêve fait appel à la mémoire ou c'est complètement ça, c'est imaginatif?
Alors, là, j'ai...
C'est une bonne question. Hein.
Ah ouais, c'est une bonne question. Et puis là, je vais botter en touche, comme on dit.
On la gardera pour nous, peut-être pour nous.
Ah oui, on va aller chercher. Ouais. Mais de toute façon, c'est évident que le rêve va faire appel à la mémoire, puisque ce sont des images, souvent, même si elles sont construites et imaginaires, il y a quand même souvent une personne qu'on connaît, un lieu qu'on connaît.
C'est ça,
donc,
c'est ça.
On l'a déjà ancré. de façon mnésique, c'est-à-dire on l'a déjà vu ou senti, ça peut même être des odeurs. Et donc, bien sûr que la mémoire est sollicitée dans le rêve, c'est évident.
Et donc, de ce fait, la mémoire, on peut dire que c'est un peu un disque dur. C'est-à-dire que ça
oui.
Non, c'est vrai.
Oui, bien sûr.
Qui enregistre des passages de notre vie.
La mémoire à long terme.
Voilà, la mémoire à long terme.
Ah, oui, totalement. Ouais. Qui est préservée très, très longtemps. Qui s'apparente à différentes choses. Hein. Il y en a au moins trois. Si tu veux, je peux te les citer.
Oui, allons-y.
Alors, la mémoire à long terme, tu en as trois. La mémoire épisodique, c'est nos épisodes de vie. C'est-à-dire aujourd'hui, telle date, je suis avec toi, je fais telle émission. Dans
un an,
voilà, c'est mon épisode de vie.
C'est effacé. D'accord. Épisode, elle est toujours là, mais.
Ah oui, elle est là. Si, c'est un épisode de vie qui est important. Hein. Mm-hmm. Je ne suis pas tous les jours à la radio. Donc, je vais la retenir. Elle va quand même décliner avec l'âge, cette mémoire. Mais elle est là. Je ne vais pas. Sauf pathologie, mais autrement, je ne vais pas l'oublier. Tu as une autre mémoire qui, elle, avec l'âge, continue et peut même s'améliorer. Donc là, il faut jouer dessus. C'est la mémoire sémantique, la mémoire des connaissances générales. Je peux toujours apprendre quel que soit l'âge. Et ça, c'est très porteur. La connaissance, elle s'ouvre à nous. Et c'est pour ça que les universités du grand âge, 60, 70, 80 ans, tout le monde peut apprendre.
Et on voit souvent aussi, souvent c'est le médecin de famille qui dit, continuez, faites des mots croisés. Oui. On voit souvent nos anciens faire des mots croisés, par exemple.
Oui.
Et ça, c'est bien, ça.
Oui, c'est dans la connaissance, donc la mémoire sémantique avec beaucoup de choses, les fonctions exécutives. Mais oui, bien sûr. Mm-hmm. Et puis, il y a une mémoire aussi qui là perdure. Quelles que soient les pathologies, même, c'est la mémoire procédurale, c'est les acquis, les automatismes, le tambouillet, le clarinettiste, la conduite automobile, qui fait que on ne sait plus où on va, mais on peut quand même conduire.
Et par rapport à ça, on dit souvent, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas.
Exactement.
Ouais. C'est ce qu'on appelle la
mémoire procédurale.
Mémoire procédurale, d'accord.
Exactement. D'accord. Donc ça, c'est à travailler, à préserver. Par exemple, les gens qui sont dans les EHPAD savent très bien qu'ils vont pouvoir faire travailler donc, les patients sur cette mémoire-là, parce que ce sont des acquis qui vont rester. Une couturière saura toujours utiliser le tissu, avec les ciseaux.
Ah ouais, oui. Même si elle a perdu la mémoire, elle se souviendra toujours.
Oui.
Ça, c'est son, par exemple, de son métier, ce qui était la couture. Elle se souviendra toujours. Elle ne perdra pas le fait de...
Non.
Ah, c'est incroyable.
Oui.
C'est la mémoire, comment le...
Toujours procédurale.
Toujours procédurale. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il faut aller sur cette mémoire, parce qu'on valorise la personne qui est vraiment en difficulté de vie
pour
autre chose. Mais là, elle sait très bien faire et elle excelle. J'ai suivi, que ce soit des clarinettistes, des saxophonistes, ils ont été excellents joueurs, enfin musiciens, jusqu'à la fin des temps.
Alors, on dit par exemple que certaines personnes sont capables, puisqu'on parle musique, par exemple, ils ne sont pas musiciens, ils ne savent pas faire de notes, ils ne savent pas. Voilà. Ils écoutent, par exemple, une note de musique ou des notes de musique et sont capables de les retranscrire, par exemple, sur un clavier, sur un piano, comme ça. Ouais. Est-ce que c'est la mémoire qui joue ?
Mémoire auditive.
Mémoire auditive aussi.
Alors,
d'accord.
On a trois mémoires, on en a beaucoup plus, mais dans ce sens-là, il y a une mémoire visuelle, il y a une mémoire auditive et kinesthésique. 80% de la population, c'est mémoire visuelle, c'est-à-dire on a besoin de lire quelque chose pour bien le retenir. Et puis, il y a quand même 15%, ils sont en mémoire auditive. Et c'est des gens qu'on a vus sur le banc de la fac, qui prenaient aucune note, qui ressortaient et qui connaissaient...
Il y a 15%...
Et qui connaissaient le cours.
Ça, c'est fort.
Ah, ça nous rend...
Quand t'as une personne comme ça à côté de toi à la fac, là, tu te dis, mince, là, moi, je passe la moitié de la nuit à réviser, tout écouter.
Exact,
Et ça, 15% des gens sont capables.
Oui,
c'est dû à quoi ? Justement, une mémoire différente
? J'imagine, oui, il y a des stimulations qui sont différentes. Bien sûr, à la naissance, on est tous égaux, mais sans l'être aussi.
T'as envie de dire, mais pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi il a eu ? Pareil, héréditaire peut-être ?
Il y a une notion, mais pas que. Il y a une notion. Bah, par exemple, moi je suis émerveillée, je vais visiter régulièrement une tatie, 96 ans. Elle me raconte toute l'histoire de la Martinique et c'est incroyable, des mémoires comme ça, exceptionnelles. Après, je ne pense pas qu'il y ait une notion d'hérédité. Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose à la naissance bon, qui est donné, qui est accordé.
Vous écoutez Martinique la première. On parle de la mémoire ce matin dans Prenons l'air. Un rendez-vous qui sera désormais une fois par mois avec le docteur Château-Henri Carole Gériade. On ne va pas parler de mémoire tous les mois. Hein. On aura différents thèmes que l'on va aborder. Mais la mémoire était quelque chose de très intéressant puisqu'on a parlé aussi de la maladie d'Alzheimer. Alors, justement, pour revenir sur la maladie d'Alzheimer et la perte de mémoire, on le disait tout à l'heure, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des signes, il y a des choses qu'on peut...
Des oublis.
Et est-ce qu'on s'en rend compte, nous, en tant que malades, par exemple ? Est-ce qu'on se rend compte qu'on perd... Comme je disais tout à l'heure, le téléphone, le travail, l'activité, bon, ça, c'est autre chose. On peut oublier, ce n'est pas vraiment la maladie. Mais quand on est à un stade de la maladie, est-ce qu'on s'en rend compte, personnellement ?
Alors, il y a un des signes qu'on appelle le déni. C'est-à-dire la personne peut-être de façon psychologique met de tels remparts pour compenser en fait ces oublis-là. Donc ce signe-là qui est le déni, vraiment bien souvent les gens arrivent au cabinet en disant non, tout va bien et c'est l'aidant qui est en train de rapporter des faits importants et conséquents dans les actes de la vie quotidienne. Ne pas retrouver sa voiture, avoir appelé l'aidant, l'aider, comme on dit, ne va pas le rapporter en consultation. Mais l'aidant va dire, tu te rappelles, maman, tu m'as appelé parce que la voiture, tu ne savais plus où elle se situait. Des choses comme ça.
Donc, ouais, ça c'est vrai que ça arrive, oui, mais ça arrive même souvent.
Oui, mais je dirais même pour nous, mais bon, nous, on ne va pas chercher quelqu'un.
Nous, c'est à des stades différents.
On tourne.
Mais moi, ça m'est déjà arrivé hein, sur les parkings, sur le commerce. Mais c'est
après,
pas possible.
Oui, bien sûr. Après, il faut vraiment sécuriser aussi la population parce que les oublis, je dis bien, les oublis appartiennent à la mémoire. On peut pas. Il y a 10 000 stimuli depuis notre réveil jusqu'à cette heure-ci. Et si on n'a pas oublié un nombre conséquent de stimulations et de sollicitations extérieures, ce serait une cocotte minute qui ferait qu'on serait totalement surchargé. Donc les oublis sont nécessaires. C'est comme une chaise musicale ou une chambre vide.
On va dire que ça se met en repos, quoi. Ça se met en pause un petit peu.
Ça se vide, oui. Ça se vide pour pouvoir retenir aussi certaines choses, quoi. C'est-à-dire quand tu me poses une question, Pascal, je suis dans l'attention-concentration. J'ai oublié peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je me concentre sur, tu vois. Et j'ai oublié certainement l'odeur du café du matin parce que je suis dans ta question. Donc, il y a plein de choses comme ça où on sollicite et on est obligé d'évacuer, et tant mieux. Les oublis, il faut les prendre, surtout après 50 ans, il faut les prendre aussi avec de l'humour et l'idée que c'est une normalité. Après, de toute façon, s'il y a une conséquence répétitive au quotidien, là, il faudra consulter et s'inquiéter.
Et c'est là que le malade ne se rend pas compte, mais c'est les autres qui se rendent compte pour lui. C'est là où on peut se dire, mais les oublis, on va dire, même du quotidien, parce qu'on est pris sur certaines choses, ça, c'est tout le monde, quoi.
Oui, c'est tout le monde. Moi, la première, c'est tout le monde, bien sûr.
Est-ce que depuis quelques années, il y a des progrès, justement, pour savoir si la mémoire si la mémoire est bonne, voilà, comme quand on va avoir un spécialiste pour telle et telle maladie, on peut aujourd'hui se dire, voilà, votre mémoire, oui, non, il n'y a aucun problème, tout va bien, maintenant, vous avez une mémoire de jeune, par exemple.
Alors, il y a des tests. Les neuropsychologues font les tests, on appelle ça le BNP, bilan neuropsychologique, qui nous permet donc de tester, de savoir où en est le capital mnésique, comme on dit. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une attitude qui est différente entre l'hexagone et ici. L'hexagone, les gens y vont dans cette idée de se tester, alors que tout va bien, mais pour savoir faire un peu un check-up où on en est, un peu comme on va faire une glycémie où on prend sa tension, la mémoire où j'en suis. Ici, peut-être que c'est difficile d'accès aussi, parce que les délais d'attente sont très longs, mais en fait, souvent, le diagnostic est à poser, et rarement, on est en train de dire, non, madame ou monsieur, vous n'avez rien. Alors que c'est un profil différent. On consulte ici très souvent dans l'idée d'une pathologie et non pas dans l'idée de la prévention. Alors que quand tout va bien, on peut mettre vraiment... alors, prévention 5M, avant je disais 3M, maintenant on est dans le 5M. Et c'est-à-dire, on met des choses en place par rapport à ça et pour préserver cette mémoire.
D'accord. Donc, le conseil, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez ce matin, le conseil en tout cas de notre invité, le docteur Château-Henri Carole, qui est gériatre, pour garder une bonne mémoire, il faut la travailler.
On est exactement.
Il faut la travailler régulièrement. Les petits oublis par-ci, par-là.
On est dans la logique de l'avancée en âge. Ouais. Et les plus jeunes oublient aussi. Après, quand on avance en âge, il y a certaines stratégies à mettre en place. Je donne des exemples. On va étendre son linge. D'accord, on doit partir prendre la voiture. Si on ne veut pas une fois que la machine est finie, on va mettre la bassine devant la porte d'entrée. C'est une association d'idées qui fait que quand je vais partir, ma bassine, ok, je remonte à l'étage, je vais étendre mon linge et puis voilà, ça me...
C'est un peu comme les tests de mémoire pour les chiffres, etc. Il faut que certains utilisent...
On met plein d'autres choses en fait dans la vie quotidienne. Parce que les oublis vont se majorer, les oublis vont augmenter après 50 ans. Ça, c'est sûr. Je veux dire, nos cheveux blancs, nos lunettes, ils sont bien présents après 50 ans. Donc, le cerveau, de la même façon, vieillit. Et on va compenser. On va mettre des lunettes avec des verres qui changent. On va aller chez le coiffeur très gentiment. Et ben, pour le cerveau, on va mettre, par exemple, les clés bien rangées. Et puis, j'ai donné ce détail. Ou un minuteur, c'est-à-dire, au lieu que ça brûle, on met le petit minuteur dans la cuisine. Et plein de petites choses. Placer la voiture, on met devant un numéro. Et on prend plein d'éléments comme ça qui va nous permettre de nous sécuriser aussi. Parce qu'on n'a pas envie de chercher sa voiture très longtemps.
Non, quelquefois c'est perturbant quand même vous cherchez la voiture, vous dites non, c'est pas possible. Si vous avez des questions, le standard est ouvert 63 23 23, n'hésitez pas à nous en faire part, c'est avec grand plaisir qu'on partagera tout cela ensemble en direct sur Martinique la Première. Alors docteur, on parle donc de mémoire aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent un instant, vous êtes un petit peu en retard, l'émission a démarré à 9h notre invité le docteur Château-Henri Carole sera avec nous régulièrement une fois par mois. Voilà, le troisième samedi de chaque mois. Elle sera avec nous. On abordera différents sujets sur la médecine, sur le corps, sur des choses qu'il faut savoir, des petites astuces. Également, on sera accompagné aussi d'invités, docteurs, certains de vos collègues. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. Vous, c'est la mémoire.
Voilà. Ce sont des spécialités.
Après, il y a des spécialités qui sont autres, évidemment. Donc, la mémoire, la préservation. Le plus tôt possible. Alors, on dit souvent que les gens qui lisent beaucoup, par exemple, pourront avoir une mémoire qui va durer longtemps. Est-ce que c'est vrai, le fait de...
Oui.
C'est mémoriser quelque part quelque chose lorsqu'on lit.
Oui, quand on fait en fait des travaux, entre guillemets, qu'on peut dire intellectuels, en fait, on augmente ce qu'on appelle la réserve cognitive. La réserve cognitive, c'est un frigo qu'on remplit, en fait, si ça pouvait être ça. La multiplication, parce qu'en fait, on a démontré la neurogénèse, ce qui est extraordinaire, parce que quand j'étais sur les bancs de l'université, le vieillissement faisait que nos capacités de mémoire diminuaient. Et puis là, les nouvelles machines sont arrivées, la nouvelle imagerie, technologie, et qui fait que maintenant, on a vraiment démontré que plus on travaillait, comme tu dis, les exercices de lecture, les exercices de mémoire, les mémoires visuelles, les sudoku, ce qu'on appelle un entraînement cérébral, fait que cette neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones, apparaît.
Ah oui,
c'est extraordinaire.
Donc la mémoire, elle peut se régénérer.
Oui. Et elle se bonifie, un peu comme le bon vin, dit-on, mais ça se bonifie.
Est-ce qu'il arrive des fois, après un accident, pour certaines personnes qui ont perdu la mémoire et qui, petit à petit, recommencent, j'allais dire, presque à zéro, quand c'est le cas.
Oui, et tu as des mémoires, c'est ça qui est extraordinaire, parce que, par exemple, après un AVC, il peut avoir vraiment des troubles amnésiques, d'accord ? On a même vu que la mémoire visuelle, ce qu'on appelle la création d'images. Par exemple, je te fais le mime. Je suis paralysée du bras droit. Je veux utiliser un verre. Je ne peux pas. Parce que ma paralysie fait que... Et donc, j'imagine que je prends le verre, que je déplace. Donc là, on est dans une mémoire, puisque je sais faire le geste. Donc on est dans une mémoire et on est dans la création d'images. Ceci appartient à la rééducation et améliore les progrès de 30%. C'est-à-dire s'il y a une notion de récupération et une notion de neurogénèse, donc ça va faciliter les connexions neuronales, d'accord, entre les neurones, et qui fait que la progression même de la mobilité par une création motrice.
Ouais. Alors, donc, voilà, on est le bras pour lui faire entre... Mais de penser, je peux prendre mon verre, par exemple, avec ce
exactement.
Bras, donc on le prend.
Là, tu es en mémoire visuelle. Tu vois,
mais alors on se dit quoi dans la tête avec on prend le verre dans la main gauche.
Absolument, tu peux même fermer les yeux si tu veux, création. L'imagerie mentale, tu sais, l'imagerie mentale.
Et on se dit, non, oui. C'est mon bras droit qui prend le verre, pas mon bras. Et ça améliore.
Oui, tu veux, ça te fait un effort au niveau du cerveau. Mm-hmm. Donc tu vas, c'est comme si tu faisais un effort physique, tu ramènes du sang au niveau du cerveau.
Ne quittez pas, Mireille, voilà, vous êtes au standard.
Et là, ton imagerie, si tu veux, va favoriser les connexions. Et les neurotransmetteurs vont se parler et vont, par rapport à cette image qui est créée. La création d'image fait partie pour régénérer tout ce qui est substance du cortex.
Et c'est comme ça qu'on travaille pour les personnes qui ont...
Oui, mais c'est ce qu'on fait aussi pour les athlètes haut niveau. Oui, c'est la visualisation créatrice.
Oui. Donc
si tu veux, celui qui va descendre la piste de ski ou le footballeur, même nos footballeuses là, qui se débrouillent très très bien, elles ont imaginé maintes fois marquer leur but.
Jusqu'au jour où on le marque.
Ah oui, mais c'est dans la visualisation créatrice, donc ce sont des images qui favorisent, et bien sûr, on est dans tout ce qui est cortical. Hein, donc,
C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. On va accueillir Mireille, qui est, me semble-t-il, avec nous au standard. Coupez bien la radio, ne mettez pas le haut-parleur du téléphone également, hein, ça, c'est important, parce que sinon on ne peut pas vous passer à l'antenne, et comme je le dis très souvent, si on vous passe à l'antenne et que vous laissez le haut-parleur ou la radio à côté du téléphone, nous on a un effet d'écho, c'est agréable, blablabla. Mireille, vous êtes avec nous en standard. Oui. Bonjour Mireille.
Oui, bonjour tout le monde sur le plateau.
Bonjour, bienvenue Mireille.
Je serai pas long, juste pour dire ce que la dame vient de dire. Est vrai, j'ai mon frère, il était musicien, professeur de musique au CERMAC. De toute façon, c'est Philippe Clarion. Il a eu 3 AVC bien brutalement, il a pris l'avion, l'a opéré dans la tête, tout et tout. Mais il a repris la mémoire, comme la dame vient de dire. Il était couché un jour et puis je lui dis, frère, ou pas pour une guitare ou Eh bien, il a repris la guitare et il a retrouvé la mémoire. Il est bien. Il est bien, mais il est un petit peu paralysé. Mais il se met assis, il prend sa guitare, il prend son livre qu'il donnait des cours aux enfants. Et il fait ses petits affaires, il fait ses notes. Et il a des copains qui viennent, on l'amuse avec la guitare, ils viennent avec leur guitare et puis là... Ça passe, c'est réel ce que la dame vient de dire là, parce que je suis un petit peu ému, parce que j'ai vu que c'est la réalité.
Parce que la dame est docteur. Hein.
Oui, docteur.
Docteur Château Ricard. Mais comment est revenue la mémoire? Elle est revenue, comme on le disait, très rapidement, parce que vous avez assis...
La guitare, il a pris sa guitare, et il s'est mis assise. Je lui ai acheté, mon Dieu, comment on appelle ça, une tablette.
Ouais,
il fait ses notes, il fait ses affaires, et il a la tête plus que moi encore. Il ne se met pas trop debout, mais il est debout, c'est bien, monsieur Félix.
Ah, c'est excellent.
Docteur ce qu'il a dit là est superbement, la personne retrouve le repère avec ce qu'il avait en tête, il avait l'habitude de faire.
Donc, c'est la mémoire, comment dire
procédurale. C'est la mémoire des acquis, l'habitude.
Oui. Ah, la mémoire des acquis, voilà ce qu'on disait.
Il écrit, il fait des courriers pour moi, il est assis là, il ne peut pas se mettre trop bien debout. Mais il est la personne que j'ai connue.
C'est ça qui est bien.
Il est la personne que j'ai connue.
Eh oui. Eh ben c'est super, Mireille.
Merci pour le témoignage, Mireille.
À chaque fois, et on en discute, il me donne des des paroles à laquelle on voit qu'il est dans ses affaires. Il a repris complètement la mémoire.
Mmh. Ouais, quelque part, il l'avait toujours.
Oui, après, il a peut-être... Alors, la mémoire ancienne procédurale est là, oui. Mais il a certainement un petit peu... Regardez, l'autoroute, une fois qu'elle est bouchée, on va faire en périphérie, on va utiliser les chemins chiens, comme on dit.
OK.
Bon, eh bien, lui, avec ses acquis, il a aussi certainement recréé des nouveaux vaisseaux. Il a vascularisé à nouveau son cerveau par le jeu de la guitare, par le fait de communiquer, par les mémoires sensorielles de t'entendre, d'échanger. Tout ce qui est communication aussi, ce sont des sollicitations au présent. Donc là, il y a des... Parce qu'une fois que l'AVC est là...
Oui.
Bon, ce qui est mort est mort. Mais il y a plein de choses à côté et autour qui fait qu'il retrouve des chemins de connexion et qui permettent de très bien échanger avec toi. Et de
il bégaye, il ne fait plus ça, il parle, il est bien. Ah. Il est bien.
Et puis il continue la musique dont il était passionné, c'est ça qui est génial.
Il a toutes ces guitares-là et après, quand il a repris la mémoire, il me dit qu'il avait telle guitare. Et c'est vrai, j'ai arrangé toutes ces affaires, je ne les ai pas touchées. J'ai remis en ordre parce qu'il n'était pas à la maison, il est allé au Corbet, il est allé en métropole, tout ça. Après, il est allé à la Ménard, il a refait les deux autres AVC sous place à la maison. Mais il sait tout ce qu'il a. Hier, il m'a demandé un grand bol qu'il avait, où se trouve son bol. Alors, je lui ai dit, mais c'est sous le placard. Quand je l'ai pris, il m'a dit, non, t'as acheté ce bol là.
C'est bien.
Oui, alors c'est gentil de refaire vivre les gens, qu'ils puissent reprendre... leur sens de vie, c'est ça. Eh bien, je vous remercie, je voulais faire ce témoignage, et ça m'a comblé de joie quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais mon frère est un grand.
Eh ben, merci.
C'est vrai, exactement, parce qu'il s'est battu, et chaque petit pas compte, et tout ça, c'est important.
Et il a refusé d'aller, de faire le kiné venir, il m'a dit non, il m'a dit d'acheter un vélo d'appartement, il fait ses affaires, il le fait,
Très bien.
C'est génial.
Alors là, il y a quelque chose qui est essentiel dont tu parles, Mireille, c'est la motivation.
Oui.
Parce qu'après une maladie, c'est pas évident.
Je suis avec lui là. Il est accompagné aussi,
Oui, exactement. Et puis l'entourage.
Et j'allais dire l'accompagnement. Mireille, apparemment, elle était pour pour le motiver. C'est ça qui est.
Voilà.
Merci,
Mireille. Merci de continuer.
Merci, Mireille. On va
continuer. Belle émission.
Merci. C'est gentil de votre témoignage. À bientôt, Mireille. Bon week-end.
Merci, au revoir.
Merci. Émission qui se poursuivra une fois par mois avec notre invité, donc le docteur Château-Henri Carole. On a parlé aujourd'hui de la mémoire, mais on parlera d'autres sujets dans un mois, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours intervenir aussi au standard. Qu'est-ce que l'on pourrait... Là, c'est un très beau témoignage, justement, par rapport à ce que vous avez expliqué, docteur, dans cette émission. Donc, le fait d'activer une personne, ça peut permettre justement à restimuler la mémoire.
En plus, ça tombait bien, c'est un musicien, c'est un créateur.
C'est ça.
Il y a des professionnels de santé, l'art thérapie, donc nos art thérapeutes qui vont.
Alors c'est quoi ça, l'art thérapie?
L'art thérapie. Alors ce sont des professionnels qui vont accompagner là aussi dans les émotions parce qu'il y a une mémoire émotionnelle, mais qui vont être dans le savoir-faire également. Ça peut être la création chez la couturière, refaire certains patrons.
Ah oui, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au métier qu'on a exercé.
Ça peut être ça.
On se sert de ça. Pour rappeler aux malades...
Oui, mais ça peut être aussi un appel à la mémoire autobiographique. Par exemple, si je mets les mains dans du sable, c'est un fil rouge. Le sable, si c'est un pêcheur, il va pouvoir parler de sa vie, de sa pêche. L'idée, c'est d'avoir un support. Ça peut être un tissu, du sable ou des couleurs.
Oui, là, c'était la musique, la guitare. Ce que nous disait.
Voilà, et là, on est dans les stimulations. Stimulations sensorielles, nos cinq sens. Et tout ça, c'est très, très important.
Belle intervention, docteur Château-Henri Carole. Bon, on n'a pas encore le sujet du mois prochain, mais on va le trouver. Ce qui est important à rappeler également, c'est que vous avez édité des ouvrages, justement, sur la mémoire. Il y a le tout premier, c'était Mémo Aide.
Alors, le premier, c'est Quelque chose de Martinique aux éditions Nanika. C'est un livre qui parle de la Martinique. Enfin, c'est vraiment les Martiniquais qui l'ont écrit, très gentiment avec moi. Ensuite, de façon plus professionnelle, dans mon orientation, orientation. Il y a Mémo Aide qui est là à plus de 4000 exemplaires.
Alors Mémo Aide, ça permet de, ce qu'on disait par rapport à la mémoire, ça permet de raviver la mémoire grâce à des exercices simples inspirés des méthodes qui ont fait ses preuves. Donc ça, par exemple, la mémoire, si la personne était musicien, le fait de lui rappeler, de lui donner l'instrument de musique, ça fait partie de ces choses-là.
Alors Mémo Aide, bon, ça n'est qu'un livre et un ouvrage, mais Mémo Aide, c'est par exemple des petits textes, des petites histoires et des anecdotes. Et à ce moment-là, on s'amuse dessus. Il y a des questions simples pour se remémorer. Donc, soit on se les pose le lendemain ou pas. Ça peut être aussi de façon interactive entre aidant et aidé, mais ça a été aussi utilisé comme cahier de loisirs parce qu'il y a plein de choses sur le pays. Et c'est vrai que ce sont des exercices qui nous font méninger. On est dans l'idée de l'entraînement cérébral, toujours. Donc ça, par exemple, après un AVC, pour le monsieur, ça pourrait être très, très
bien. C'est très bien.
Bien. Parce qu'on est dans l'écriture. Alors, il faut savoir que, et ça a été démontré, que la technologie des tablettes ou du portable, travailler dessus, il faut bien sûr continuer, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même gain que le stylo papier. Le stylo papier, c'est en fait une stimulation aussi de préhension, et ce qu'on appelle sensorimotrice, qui va jusqu'à la connexion donc, du cerveau. Et ça, les améliorations sont plus notables.
Eh oui, mais ça peut se comprendre facilement, ça, docteur, parce que la tablette, par exemple, voilà, on déplace avec le doigt, on appuie, machin. Il n'y a pas ce contact.
Il n'y a pas le contact.
Ni le fait d'écrire, ne serait-ce que d'imaginer, par exemple, la lettre B, donc, que l'on écrit.
Oui,
avec la tablette, on ne l'écrit pas, on appuie. Oui, c'est ça.
Donc les fonctions exécutives sont beaucoup plus amples et beaucoup plus sollicitées par le papier crayon. Donc Mémo Aide, oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu Sabine André Van Milton donc, ce matin et le volume 2 sortirait dans ce semestre.
Donc, on va l'inviter à la prochaine, une prochaine émission. Elle sera avec nous également pour nous parler parce que c'est vrai qu'elle a fait un travail extraordinaire. Je la salue d'ailleurs au passage.
Donc le volume 2 bientôt et puis le dernier, le petit bébé, c'est Mémo Croisé. Et là aussi, donc, là, c'est la mémoire sémantique.
C'est ça.
Connaissances générales.
J'ai confondu les deux, Mémo Aide et le dernier, c'est ça.
Alors, Mémo Croisé, alors, en plus avec l'idée d'un QR code, donc là aussi, qui fait qu'on va sur le blog Family Évasion et il y a plein d'histoires sur la Martinique et on peut en discuter. Parce que souvent, les personnes d'un âge avancé nous disent « Ah non, je ne fais pas le QR code, mais attends ». C'est facile, c'est la photo du téléphone. Et après, on en discute. Il y a plein de choses à raconter. Puis, les mots croisés, ça sollicite vraiment nos connaissances. On peut aller chercher Monsieur Google, bien sûr, mais on peut discuter les uns et les autres. Et puis, surtout, il y a un petit passage. C'est-à-dire que quand on apprend un mot, on le note pour pouvoir le retenir. Donc là, on est vraiment dans la mémorisation. Tranquillement, puisque les grilles, les unes après les autres, vont retrouver ces mots-là.
Voilà, et c'est disponible, j'allais dire dans toutes les bonnes librairies, mais on en a une qui, malheureusement, ferme ses portes, on a pris cette semaine. Ouais. Mais bon, il y a d'autres points de librairie en Martinique.
Et les centres commerciaux, et puis bon, oui, bien sûr, et les centres commerciaux également.
Également. Merci beaucoup, docteur Château-Ricard. Vous voyez, il m'avait dit une heure, mais elle est passée l'heure, on va faire une petite pause et puis on va conclure très très rapidement, restez avec nous. Eh oui, le carnaval, on approche aussi, on pourrait en dire sur le carnaval aussi, la mémoire...
Oui, parce qu'on n'a pas abordé, mais il y a une mémoire collective, une mémoire ancienne collective, bien sûr.
Voilà, mais là, on est à 3 minutes de la fin, on n'aura pas le temps.
C'est ça, t'es obligé de dire qu'il faut que j'arrête.
Merci beaucoup, en tout cas, Carole, docteur Château-Henri Carole, vous serez avec nous dans un mois, on fait comme ça.
Tous les
troisième samedi du mois, vous serez avec nous, on abordera un sujet thématique, et vous pourrez aussi intervenir, comme l'a fait, j'ai oublié le prénom, c'était Mireille, je crois, qui l'a fait très très bien.
Ne me dites pas que tu oublies.
Non, c'était juste pour voir si vous suiviez, docteur. On se quitte avec Havana Dembrimer, avec Maria Magdalena. Merci également à Eddy Lequeuilleux-Clairville pour la réalisation de cette émission. Docteur, je vous dis au mois prochain.
D'accord.
On fait comme ça. Merci.
À bientôt. La nena pa' que se lo goce, pa' que se lo goce.
En el momento que Dios puso sangre en tus venas, pensó en devolver a este mundo la belleza de María Magdalena. Diría yo que en el momento que te hizo respirar,
pienso en la pureza de la luna y en la perfección del mar. Ninfa que me provoca, aurora hembra me enciende la vida, muero en tu boca. No demores más lo que me toca, derrama tu miel en mi rostro, vuélvete loca corazón. Te digo yo, sin temor a equivocarme, que no eres la Virgen María, pero estás llena de gracia. Ninfa que me provoca, olor a hembra me enciende la vida y muero en tu boca. No demores más lo que me toca y derrama tu miel en mi rostro, vuélvete loca corazón.